Daiquiri.
L'émission LGBTQ, transpé des Bigouin de Reims.
Bon, surtout Gouin.
DKR.
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you. You don't fucking know me.
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
DKR. Bonjour.
Bonjour, je te demande, Gwen. Bonjour, bonjour à la Radio Primitive, à tout le monde qui écoute la Radio Primitive. Il est 18h, on
c'est
débute.
C'est Daiquiri.
Oui, oh, on débute la soirée ensemble. Oui, bah. J'ajuste, oui, j'ajuste, vas-y. Jeune ami. Nous sommes ensemble et pour une heure pour parler, comme d'habitude, Gwynistan, peut-être un petit peu.
Pour notre émission numéro 25, apparemment.
Apparemment, nous ne savons point. Et pour cette émission 25, on a le plaisir d'accueillir une invitée, Marinette Dosville. Bonjour Marinette.
Bonjour.
Toi, je vais t'augmenter aussi, tu vois. Ça va bien ?
Ouais, ça va, merci.
Alors, on t'accueille avec nous dans cette émission pour parler de ton travail de chorégraphe, déjà, et de ce sur quoi tu travailles, puisque tu abordes des thématiques qui sont chères à nos cœurs. Et on a pu notamment aller voir ton dernier spectacle, et on voulait en parler avec toi, et aussi pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu ce qui se trame derrière un spectacle, derrière la construction d'un spectacle chorégraphique de danse contemporaine. Et donc c'est de ça qu'on va parler dans ce numéro de Daiquiri pour ce mois d'avril.
Exactement, mais comme d'hab, on va commencer par une petite musique.
Ouais, et c'est toi Marinette qui nous a conseillé des petits sons.
J'avoue, t'as fait le boulot aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
C'est agréable, on n'a rien à faire là.
Service.
On va commencer avec un son lesbien du futur. Tu veux bien nous en dire deux mots ou en tout cas comment t'as découvert cette chanson peut-être ?
Alors, comment j'ai découvert, je ne sais plus sa date, mais Lesbica Futurista, un vaste programme en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette chanson. Et c'est une chanson qu'on a utilisée pour une représentation d'Amazon spéciale, quand on a joué à Paris et qu'on ne pouvait pas utiliser exceptionnellement les musiques de Dope Saint-Jude. Et en fait, je trouvais ça vraiment cool de mettre ce morceau-là dans ce qu'il induit de bonne vibe et de réinventer les lesbiennes du futur, sachant que le maître mot de cette chanson, c'est « sem culpa », sans culpabilité.
Alors, sans culpabilité, on écoute. Lesbiennes du futur, lesbica futurista, GA31, comment tu...
Ouais.
GA31. Allez, c'est parti.
Lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sabatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, tesão, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbica futurista, lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa, lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa, lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa, lésbicas,
lésbicas, lésbicas,
rumo à nova era de classe. elegância, amor e tesão, classe, 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 elegância, amor e tesão, lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre, lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar. Lésbicas, putas, lésbicas, sem culpa. 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 Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar. Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar.
Lésbica futurista. J'ai pas du tout d'accent portugais, je suis désolée, enfin brésilien d'ailleurs, plutôt, peut-être.
Portugais,
ouais. Très bien.
Pas de soucis.
Merci Marinette de nous avoir fait découvrir ce petit son qui est bien sympathique, qui nous fait dodeliner. On va revenir justement à notre sujet qui est toi, c'est ma main.
Pratique.
Qui est plutôt parti. Est-ce que tu veux bien déjà peut-être resituer et nous dire un petit peu qui tu es pour les auditeurs, auditrices? Nous on l'a dit, on a vu certains de tes spectacles, donc ça nous parle. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux dire de toi en quelques mots?
Yes, alors, donc, artiste chorégraphe, par ailleurs, omnivore ascendant lesbienne, et ça fait plus de, allez, une dizaine d'années que j'ai un peu profilé mon travail sur une veine vraiment féministe. Ouais, ça fait plus de 10 ans que, en gros, mes deux chevaux de bataille, c'est d'un côté la représentation du féminin, et de l'autre côté, c'est la relation aussi entre l'œuvre et les spectateurs. J'aime bien aussi remettre en jeu comment on donne à voir un spectacle et bousculer les manières de mettre en scène la façon dont on s'adresse au public. Et du côté public, comment on peut aussi être dans une réception différente. Et depuis tout ce temps-là, eh ben, j'en arrive à Amazon, dernière création. En novembre 21, manège de Reims, qui reçoit un bel accueil, c'est cool, un vrai bel accueil, tant de mes pairs que du public, et ça c'est vraiment chouette. Et donc voilà, ça donne pas une tournée internationale, mais ça donne des dates de temps en temps et une perspective de faire évoluer la pièce qui est bien chouette.
À Reims, en tout cas, on t'a vu dans des salles assez différentes, au Cellier, que ce soit au Cellier ou aussi au Manège, tu viens de le dire. T'as quand même des liens très forts avec les salles ici de spectacle. T'as été artiste associé aussi ou pas, toi?
Alors, associé, non, mais là, c'est vraiment pour être dans les clous des termes techniques. J'étais artiste compagnon, compagnonne d'un jour, compagnonne.
Toujours
3 petits points. Voilà. En tout cas, moi, je l'aime bien, le manège. Donc, voilà, on y retourne quand même régulièrement. On y retournera un petit peu aussi la saison prochaine. Et puis, en effet, ouais, la compagnie, elle est installée à Reims. Donc, c'est ça qui fait un peu l'historique de nos relations avec les lieux ici. Mmh. Mais évidemment, pas que. On travaille vraiment sur tout le territoire en France, aussi en Belgique, de plus en plus. C'est chouette.
Est-ce que c'est parce que les Belges sont plus ouverts à ce genre de spectacle aussi?
On vous le dira après la tournée.
Surprise.
Non, mais c'est sûr que sur le...
Niveau programmation peut-être déjà.
Ouais, en tout cas sur le rapport au corps, mais au corps politique, c'est-à-dire au corps versus mœurs, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de doute qu'il y a quand même des cultures un petit peu plus open que d'autres, et souvent ça va avec des cultures qui sont plus habituées à la nudité, qui ont plus de culture naturiste ou en rapport à l'écologie, etc. Et c'est pas vraiment, vraiment le point fort
de la France. Quoi ?
De la France.
Étrange.
Et ce n'est pas forcément là où il fait le plus chaud hein, qu'on aime
se mettre à poil.
Voilà.
Alors on se réchauffe en dansant.
Et ben voilà. Justement, la danse.
Comment la danse est arrivée dans ta vie ? Tu es tombée dedans comme ça par hasard ou
alors,
un cheminement ?
Dur de m'en souvenir ce que ça date. En fait, j'ai commencé.
On dira pas ton âge.
Ouais, ça va. Pour l'instant, je trouve que plus je vieillis, plus les choses se bonifient. Donc
la sagesse.
La sagesse. Ouais, c'est un, des trucs un peu plus cool quand même en vieillissant. Moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Et non pas parce qu'on m'a obligée, au contraire, j'ai obligé mes parents à aller au cours de danse, puisque je me souviens pour l'anecdote que l'école de danse prenait les élèves à partir de 5 ans. Et mes parents sont allés voir la prof en disant « elle nous fait vraiment suer, vous voulez pas faire un essai ?» Voilà.
C'était un parcours plutôt classique en conservatoire ou t'as commencé direct danse plus contemporaine, enfin d'autres formes de danse ?
Alors c'était vraiment classique, pas au conservatoire parce qu'à 4 ans, on est, en général c'est plutôt
dans... Il y a
des
initiations quand même
ouais,
à partir
voilà.
de 3 ans je crois.
Mais moi il n'y en avait pas là où j'étais, donc c'était vraiment une école privée comme tant d'autres, avant de rejoindre un cursus de conservatoire. En effet moi j'ai bouffé de la danse classique jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai même fait mon diplôme d'état pour enseigner le classique. J'ai même commencé à enseigner classique pour gagner ma vie.
Ouais. Mais on en apprend des choses.
Ouais. Et c'est, je pense, ce qui a fait que quand j'ai découvert la danse contemporaine, bah, justement à 18 ans, en fait, entre guillemets, je suis passée directement du côté obscur de la force. Voilà, j'ai pas voulu me rebouffer de l'académisme, j'en avais déjà assez fait. Et pendant très très longtemps, j'étais vraiment en opposition, je pense, avec un rapport assez formel à la danse. Et depuis quelques années, la sagesse, l'âge, je crois que j'ai compris que quand même, en fait, c'est bon, tu pouvais et faire quelque chose qui raconte quelque chose de puissant, de libre, de ressenti, etc. Et en même temps, faire un travail formel et que c'est même très plaisant de se prendre la tête à ciseler une écriture chorégraphique. Mmh.
Justement, tu le disais tout à l'heure, par rapport à l'aspect féministe de ton travail, nous, on a eu aussi l'impression que ton œuvre a été influencée depuis le début, en fait, par les questions féministes. Est-ce que c'est parce que tu t'es sentie touchée, toi, en tant que femme, que t'as voulu aborder ces sujets-là ? Ou est-ce que t'avais besoin de la danse pour aborder ces sujets ? Comment ça s'est imbriqué, tout ça ?
En général, pour moi, ça arrive d'abord par la danse, enfin d'abord par le corps en fait. Mmh. D'abord par le corps avant de mentaliser en fait ce qui était déjà là, déjà en jeu. Souvent j'ai un effet retard avec la tronche.
Bah tu sais, les artistes, il y en a plein qui écrivent et qui après comprennent ce qu'ils ont écrit aussi. Hein, donc,
Ouais, bah on est un peu dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a une recherche assez empirique, intuitive par le corps. Et après, tu vois où t'es allé investiguer, en fait. Et une fois que t'as compris, ben, tu tires le fil de cette chose-là. Pour moi, la danse a toujours été rattachée à une notion de liberté, et de transcendance, et d'exultation, enfin, voilà. On va dire que j'ai pas eu une vie, un début de vie méga simple. Et du coup, c'était clair que la danse, c'était l'espace où il fallait que je... dépote.
Extériorisé.
Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est, je pense que ça joue en fait dans le rapport qu'on a après avec une pratique. Enfin, moi, ça a toujours été ça. Et donc, j'ai toujours cherché à éprouver mon champ des possibles et mon champ de liberté d'abord à travers mon travail dansé. Et c'est dans un deuxième temps où tu dis « Ah oui, ok, ça raconte ça, en fait, parce que c'est avec un éclairage qui peut se cumuler avec des expériences de vie, des rencontres, des lectures. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un moment où j'étais déjà en train de travailler là-dessus, c'était pas forcément... le contenu, en tout cas explicitement délivré dans ma propre manière d'en parler. Mais après, ouais, de fil en aiguille, à travers surtout ouais, rencontres et lectures de féministes, souvent, ma foi, bien radicales, que ça m'a amené petit à petit aux guerrières.
Ouais, à travers, t'es arrivée aux guerrières, mais il y a eu différentes thématiques que t'as abordées au fur et à mesure de tes spectacles qui touchaient un peu à chaque fois à ces questions féministes d'un biais ou un autre au final.
C'est
t'as choisi plusieurs chemins à chaque fois.
Tu sais que moi j'ai un souvenir dans Dark Marilyn où ça m'avait touché ce côté féministe. Alors j'arrivais pas à expliquer qu'est-ce qui m'avait touché, mais j'avais trouvé vraiment assez fort quoi.
Bah c'est vrai que en fait par des biais différents, souvent je pars de retraverser une figure phare ou des muses ou des. Je pense que le premier travail qui encore une fois s'énonçait pas comme ça mais qui était déjà là, c'était Précaire dans sa version solo où j'avais des talons aiguilles super hauts et j'avais travaillé sur l'inconfort de la chose et comment transcender cet inconfort en fait, comment faire d'une forme de précarité complètement littérale un espace de créativité. Et déjà, il y avait cette notion de l'espace de créativité, c'est jouissif. En fait, il y avait déjà cette notion de faire un pas de côté sur « Ok, c'est ça la contrainte, et ben comment je peux prendre mon pied là-dedans » Et quand on fait un saut dans le temps, Lilith, par exemple, on était exactement là-dedans. Puisque dans Lilith, je commence par une scène de Shibari où je m'auto-suspends. Je précise pour ceux qui ont des doutes... Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des doutes, qui disent « Ce monsieur qui t'attache ?» Non, il ne m'attache pas du tout. C'est moi qui m'attache. C'est vous qui plaquez vos visions. Voilà. C'est moi qui m'attache toute seule. C'est moi qui en chie toute seule pendant un quart d'heure. Et c'est moi qui me détache toute seule. Voilà, Lilith, on est en plein là-dedans. C'est dans la contrainte, voire même dans la souffrance physique, littérale. Comment ce personnage il existe à travers le fait de jouir de toute chose, même dans ses entraves. Voilà, je fais le pont entre deux pièces qui, je pense, ont quasi 10 ans d'écart. Mmh. Et dans les Dark Marilyn, on a travaillé sur la figure de la star désenchantée, alors à travers Marilyn Monroe, mais on s'était imprégné de pas mal d'autres figures. Dans Mu saison 2, je m'étais intéressée au Vénus anatomique d'un sculpteur italien, Clemente Susini, à qui on avait commandité des planches anatomiques pour les besoins de la science. Et puis lui, c'était un sculpteur artiste. Et donc, il a fait évidemment ses planches pour planches médicales, mais il s'est fait plaisir à travers des Vénus hyper réalistes qu'on voit dans un musée qui s'appelle la Specola à Florence. Et elles sont super belles parce qu'elles sont à la fois répugnantes et extatiques.
Ça donne envie. Est-ce que ça change quelque chose pour toi du fait des fois d'être danseuse de tes propres créations ? Parce qu'on souvent on a l'image du chorégraphe qui est juste là pour diriger justement les danseurs et danseuses, mais là du fait que toi aussi tu t'es danseuse en fait, est-ce que ça t'as l'impression que ça crée quelque chose d'autre ou ça toi tu préfères ça pour arriver à donner un discours féministe ou selon le propos que tu veux parler?
En fait c'est vrai que dans la danse on a ce particularisme que notre outil, notre média, notre espace sensible et notre espace politique c'est le corps, rien que ça. Ça fout une grosse pression pour le corps et donc je dis pas que c'est systématique mais quand même c'est quand même courant culturellement parlant que un chorégraphe il éprouve d'abord par lui-même un enjeu avant de le transmettre à d'autres. Encore une fois, c'est pas systématique. Il y a des chorégraphes qui ont des idées très claires sur des projections et qui les guident par d'autres biais. Mais c'est vrai que, comme en règle générale, dans mes spectacles, le corps il peut être amené quand même à être assez engagé dans le rapport à l'effort. dans le rapport par moment un peu à la douleur quand même.
Attachement.
Voilà. Bon, déjà, vous aurez noté que pour faire l'autosuspension, enfin pour faire Lilith, c'est moi que j'ai mis là-dedans. Je me serais jamais permise de créer cette pièce pour quelqu'un d'autre. Alors, quand même, pour l'histoire, on l'a joué à Avignon l'été dernier, et comme c'était impossible de faire cette pièce tout un festival, je l'ai transmise à une autre interprète. Ce qui était hyper intéressant, de voir comment tu transmets toutes ces choses-là qui dépassent stricto sensu le rapport à la danse, puisqu'il y a un rapport à la douleur qui vient aussi d'une autre culture, qui n'est pas la danse et la culture de la douleur, on connaît. Mais là, c'est un autre rapport à la douleur et à une autre culture. Et c'est un autre rapport aussi à une culture politique. Et donc, c'était hyper intéressant de transmettre ça. Mais c'était clair que il fallait que je le traverse d'abord. C'était ça aurait été complètement ultra pervers de faire ça sur quelqu'un d'autre. Et pour les Amazones, on n'a pas le même rapport à la douleur, même si clairement elles y vont. Oui, on me fait signe quand même qu'elles se tapent beaucoup.
Elles se tapent dessus quand même.
Oui, c'est vrai que les corps rougissent. Et c'est pas que l'enthousiasme.
C'est pas par souci de l'autre, justement, que tu as préféré t'infliger ça à toi-même au début en se disant bon, alors si c'est la direction que je choisis, je préfère l'assumer pour moi avant de voir où ça me mène et après assumer peut-être cette identité-là. Et une fois qu'elle sera reconnue, peut-être pouvoir la distiller, mais déjà le prendre sur moi, quoi.
Ouais, mais je pense que ça. C'est valable en danse comme c'est valable dans plein de processus. En fait, il y a un moment, tu expérimentes d'abord par toi-même avant de dire aux autres que c'est bon pour eux. Mais, bon, on est, je sais pas si on est exactement à cet endroit-là, parce que là, on est aussi sur un propos artistique. Enfin, mm-hmm. Et puis sur, c'est du travail, hein, donc il y a une distance quand même. Mais après, la distance, elle est quand même relative, parce que c'est clair que la chose était posée et claire dès le début avec les interprètes. On ne pouvait pas partir sur des malentendus, sur le fait que cette pièce, elle racontait quelque chose de précis. Elle va engager le corps d'une certaine manière, aussi dans une exposition assez érotique quand même. Et donc qu'il faut être vraiment OK avec ça, pour ne pas se retrouver en effet... soit en souffrance parce que tu vis mal la chose, parce que physiquement c'est trop douloureux, ou parce que tu n'es pas à l'aise dans le regard du public là-dessus, ou parce qu'en fait tu es en train de signer une œuvre et tu n'es pas du tout d'accord avec ça. On ne m'avait pas prévenu.
Et par la contrainte budgétaire, tu le fais quoi?
Et la contrainte budgétaire pour les danseuses, tu veux
dire?
Oui,
c'est un travail salarié.
Bien sûr, évidemment. Ouais, ouais. Et ça aussi, ça fait. En fait, c'est toutes les choses qui sont énoncées dès le début du travail. C'est-à-dire que le contexte est celui-là. C'est rémunéré tant. On travaille tant d'heures par jour. Je vous cache pas que ça va être quand même bien physique. On défend quand même tel propos, voilà. Et puis en plus, avec une autre réalité, c'est que c'était une très grosse équipe. Donc, j'ai pas minimisé le fait que, en termes de vie collective, tu t'en bouffes quand même. C'est-à-dire que c'est pas chacune repart dans sa chambre d'hôtel le soir. Enfin, forcément, on a souvent partagé les chambres, on fait la bouffe à tour de rôle pour tout le monde. Et il n'y a aucun souci avec le fait qu'on n'ait pas envie de ça dans un contexte professionnel. C'est pour ça que c'était clairement énoncé dès le début.
C'est le communisme chorégraphique.
Merci Gwen. Elle n'a pas encore fait de blague, je te préviens Marinette, ça ne devrait tarder. Je vous propose qu'on écoute une petite musique rapidement. Likely 47. Alors qu'est-ce que t'es? Fanzouz, vas-y, tu peux faire ta fan. Si tu veux.
Alors, Likely 47, je la sur kiffe. Découverte il y a quelques temps, vue en concert à Paris, elle envoie tout ce qu'elle a. Elle est à la fois hyper puissante, badass, guerrière, et en même temps, elle envoie du love dans la salle. C'est-à-dire que ça fait partie des concerts où même si, en fait, tout le monde est en train de se piétiner les uns sur les autres, il se passe un truc qui fait que, en fait, on s'adore quand même. Voilà.
Donc on espère vous transmettre ça sur les ondes de Radio Primitive. Likely 47, post that.
Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. My bitch would get on the ground just to make sure the light is found. The way she make them angles hit, she like Bill Cunningham with that shit. I mean that shot, Richard Avedon, to make me look like a don. I got so many pieces, bitch, why not have me a photo shoot right on the block? I put two lanes on gridlock so I could sit in a fierce squat. Spent big money on a wristwatch, highlighter on tip top. Catch me in midair, click. They only made two pairs, click. Get into this hair, click. I do this shit with flair, bitch. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Galliano, I'm in Galliano, bitch. Photo me pronto, I'm in Galliano. Galliano, I'm in Galliano, bitch. Photo me pronto, I'm in Galliano. Fee, fi, fo, fum. Grab your lens, cause here she comes. Frame by frame, glossy lips. Must I remind you I'm that bitch? Elongated, sophisticated, cover girl, bitch, we made it. Every feature soft to the touch. I make all your boyfriends blush. Then I let them have it as I sit in custom fabric. They say you are what you eat, so I wear carrots and make cabbage. Andrew Dunn Sumo, make me pretty in my Mew Mew. Now serving, come and grab it. Tangy Banji, just like Nunu. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. I'm in Mugler, I'm sitting in Mugler. Bitch, take down your toupee. I'm sitting in Mugler, I'm in Mugler, I'm sitting in Mugler. Bitch, take down your toupee. I'm sitting in Mugler.
Hold on. I'm Herb Rich with the shit. Gone did he crap that bitch.
Annie Leibovitz.
Gone did he crap that bitch. I'm Herb Rich with the shit. Gone did he crap that bitch.
Annie Leibovitz.
Gone did he crap that.
Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit.
Ça marche. Bonjour et bienvenue dans Daiquiri. Il est plus 18h mais on est déjà en cours avec Marinette Dauzeville. On parle danse contemporaine et surtout chorégraphie, féminisme. Et on va poursuivre dans les féminismes justement avec ton dernier spectacle, Amazones. On le dit avec,
avec
le S soit visibilisé. Un travail que tu as adapté d'un texte de Monique Wittig, Les Guerrières. Donc, peut-être qu'on peut faire le lien avec ton travail jusqu'avant. Comment t'es arrivé au texte de Wittig? C'est arrivé dans ta vie, comment tout ça?
Juste Wittig, grande maman lesbienne du Gwynistan, que si vous n'avez jamais lu, allez
foncez.
Lire, c'est génial.
Ouais, lesbienne radicale communiste,
ouais. qui On a en fait toujours.
Notamment partie des Gouines
Rouges.
Rouges. Voilà, deux gros mots.
Exactement.
Comment je suis arrivée là, je l'ai déjà un petit peu amené tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait c'était vraiment lié à des rencontres phares, des groupes féministes dans lesquels je me suis retrouvée, où il se trouve qu'il y a essentiellement des féministes lesbiennes. Du coup, très rapidement, c'est les textes qui circulent, en fait, et rencontre coup de cœur pour Les Guerrières. Je suis pas la seule, parce que c'est un texte tellement, tellement puissant, tellement communicatif, que je pense qu'il y a un paquet de monde qui tombe en amour avec ce texte. Pour ma part, ce que j'adore dans ce texte-là, et pourquoi j'en suis venue à me dire j'ai envie de travailler à partir de ce texte, surtout que c'était une première fois que je travaillais à partir d'un bouquin. C'est deux choses. Déjà, le fait que ça soit de la prose, mais qui fasse office de manifeste politique. Ce qui, en fait, est excessivement rare. Souvent, les textes politiques ont un ton politique. Et les textes poétiques parlent des fleurs bleues, et c'est cool. Ouais. Je caricature, mais là, on est vraiment sur un endroit où tu te prends un séisme politique avec une langue qui fait que ça s'adresse à toi d'une autre manière. Et c'est pas pour minimiser ou enrober, etc. C'est plutôt que, bah, comme la poésie, ça vient te parler à d'autres strates de ta personne que uniquement le mental. C'est dur à décrire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la poésie peut te toucher, ou une musique aussi? C'est que, je sais pas, il y a une résonance qui n'est pas que intellectuelle, mais il y a une résonance qui est sensorielle, qui est peut-être plus physique, une relation peut-être plus physique ou perceptive au texte. Donc ça, je trouvais ça déjà brillant, je disais chapeau. Et je trouvais que c'était un vrai écho avec la danse, puisque dans la danse, on a un truc vraiment commun, puisque a priori, si on décide de pas parler sur scène, on est dans un langage qui a une forme d'abstraction du fait qu'on ne parle pas, on parle avec notre corps. Et en même temps, ça parle quand même, mais par d'autres endroits, quoi. C'est ce qui fait que les spectacles de danse, on peut tout à fait ne pas être touché, ça arrive souvent. Mais ça fait aussi qu'en général, quand on est touché, il se passe un truc physiquement qui fait que ça t'impacte, ça te laisse des traces dans les pores de ta peau, quoi. Et donc, il y a ce truc commun qui fait que j'ai eu envie de travailler sur ce bouquin. Et l'autre chose, c'est le fait que je trouve qu'il n'y a aucun compromis dans ce texte sur le fait que, à la fois, il faut prendre les armes et y aller, et à la fois, il faut cultiver une sororité, une bienveillance et un amour, etc. En fait, c'est pas
que de l'opposition.
Ouais, c'est pas que du fight, c'est pas non plus que de la bienveillance gentille. C'est un endroit qui ne cesse de tirer des bords entre les deux, qui par moment même tu te demandes si ça se contredit ou pas, parce que ça navigue vraiment dans plein d'endroits différents. Mais ça, je trouvais ça vraiment intéressant et j'ai vraiment tenté de traduire ça corporellement parlant, d'inventer un langage dansé qui mène de front la douceur de l'utopie et l'ardeur du combat, en gros. Mmh. D'être tout le temps sur les deux registres et de ne pas céder sur l'un ou l'autre.
C'est communément admis que Maudie Wittig, plus dans le corps les biens, elle inventait sa propre langue, ouais, aussi. Et donc toi, tu as inventé ta propre danse à partir de cette propre langue.
Ouais, elle invite à remettre en jeu le langage sous toutes ses formes, puisqu'il y a cette phrase aussi, hein, les mots que tu parles t'empoisonnent la glotte, les lèvres, la langue. Il y a cette notion de se réapproprier les mots et de surtout de questionner ce qui leur arrière-plan ou leur contenance symbolique, et donc d'inventer son propre langage. Et oui, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire librement inspiré de. C'est pas une histoire de calcage ou autre, c'est vraiment librement inspiré. J'ai inventé un langage propre, pas forcément propre à moi, mais propre à ce spectacle-là uniquement.
Et pour toi, tout de suite, la nudité, c'est une évidence pour ce spectacle, ou c'est quelque chose qui est venu justement en commençant à en travailler dessus, que ça pouvait justement apporter plus à l'œuvre?
Alors pour cette pièce, c'était une évidence. Pour Lilith, j'ai mis du temps à tourner autour, à chercher plein de trucs de maquillage, de rajouts en tout genre, pour arriver à la conclusion que, ah non, mais en fait, ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus fort, c'est le fait qu'à un moment, un propos soit incarné par un corps nu, c'est-à-dire un corps qui aussi est démuni. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de super scénos, il n'y a pas d'hélicoptère qui arrive du plafond, bref, ou de lumière stroboscopique. Et du coup, voilà, moi ça je trouve que c'est un joli endroit de challenge. C'est que tu as envie de raconter quelque chose et tu vas le raconter avec le dépouillement d'interprètes dont les corps sont nus. Et puis c'est une marque de libération, parce que bon, après nudité en soi ça veut pas dire grand chose, il y a plein de formes de nudité quelque part. Nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment une nudité qui ne se regarde pas faire, qui a passé suffisamment de cap pour être vraiment oublie qu'elle est nue, en fait.
Sauf que ça commence directement en plateau où les interprètes sont déjà nus avant que le spectacle commence. Donc, du coup, ça, il n'y a pas peut-être cette phase de déshabillage qui pourrait justement être un peu érotisée ou qui servira à rien, quoi.
Qui fausserait la donne. Alors que là, elles sont chez elles. Elles sont à poil. Les gens rentrent. Et les gens rentrent, comprennent tout de suite qu'ils sont chez elles. Mmh. Et du coup, c'est chez elles et c'est leur propre règle du jeu. Ici, ça se passe comme ça. Ce qui, pour moi, est un processus qu'on pourrait comparer à l'autodétermination. C'est-à-dire que tu es suffisamment fortifié en connaissance de cause, bien sûr, et ancré sur quelque chose que tu as envie de partager pour ne pas laisser de place à une récupération en face. Et c'est hyper important pour la nudité, puisque comme il y a une connotation érotique directe, on a vraiment travaillé à une forme de quatrième mur et qui fait que le plateau est un safe space. Et alors bon, ça ne va pas rentrer dans les détails, mais ça revient au fait que certes elles sont nues, elles sont belles tout simplement parce qu'elles sont bien dans leur peau, qu'elles se posent pas de questions et qu'elles sont libres dans leur mouvement et dans l'espace, qu'elles prennent plaisir ensemble à combattre, à danser et aussi à, par moments, glander et manger des fruits. Et à cracher un maximum. Et elles adorent cracher, et ça, c'est cool. Surtout les pommes. Et tout ça sans jamais se mettre en danger, c'est-à-dire sans jamais se donner en pâture au regard du public.
Tout ça, c'est quand même encore un revers. Tu disais cracher la pomme. Tu viens encore faire ta rebelle, en fait, là-dedans, un petit peu. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que t'as décidé, toi, depuis le début, d'arborer fièrement ces références radicales aussi, de les utiliser à propos dans tes spectacles, justement. Et ça participe peut-être aussi à une marginalisation de ton travail. Et du coup, de cette mise un peu peut-être au banc, justement, par les thématiques que tu abordes. Et d'ailleurs, sur Amazon, il s'est passé aussi pas mal de choses qui n'ont pas forcément trait à sa mise au banc, mais peut-être là, avec des questions d'ayant droit. Oui. Cette transition était beaucoup trop longue. Hein.
Non, on t'a suivi, t'inquiète.
Ouais,
on est dans le wagon.
Donc du coup, il y a eu des soucis aussi sur Amazon au final.
Ouais, alors juste pour quand même pour faire écho à ce que tu as dit, c'est sûr que moi je suis un peu la reine du pas de côté. Mais du coup, comme ça devient une vraie gymnastique, j'arrive à me démerder en restant dans le cadre plus ou moins. Ce qui fait que je ne vais pas nier qu'il y ait des travaux qui ont souffert peut-être des thématiques utilisées ou de la façon dont on les a traitées. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ça tourne, ça marche bien, ça joue dans des lieux d'une certaine reconnaissance. Donc, je ne peux pas dire que je suis hors système du tout. C'est une manière d'amener ces sujets et ces références-là aussi auprès d'un public qui n'a pas forcément connaissance de ces références-là. Et du coup, tant mieux si c'est l'occasion de les rencontrer. Pour les ayants droit de Wittig, bah, en fait, oui, on s'est vu refuser l'utilisation des textes. Et surtout, après avoir demandé une vidéo, etc., etc. Je la fais court. En fait, en ce moment, elle refuse systématiquement l'exploitation des textes de Wittig pour tout ce qui est format spectacle. Et vu que, en ce moment, je dis bien en ce moment, c'était pas le cas il y a quelques années, c'est systématique. Ça aurait été plus sympa de ménager le suspense et surtout de ne pas avoir besoin de nous demander une captation vidéo pour avoir ce bilan. Mmh. Bon, bref, après nous avoir mis fortement dans le rouge, mais pas le bon rouge, et dans l'urgence de réadapter une pièce 15 jours avant de jouer à Paris, l'issue de ça est super chouette, c'est-à-dire que finalement, j'ai retravaillé avec d'autres textes d'une amie qui s'appelle Luvan, une super autrice qui a des talents d'écriture incroyables et une culture incroyable et une capacité à faire des recherches et des fouilles pour agrémenter ses écrits qui sont super. Pour l'anecdote, je l'avais offert les guérillères il y a quelques années. Et quand même, c'est drôle l'histoire.
Destin.
Voilà, destin. Et son dernier roman, Agrafa, est dans une forme de filiation aux guerrières. Je dis vraiment une forme, hein, c'est pas du tout du direct, mais il y a un clin d'œil, il y a un écho. Et du coup, on est allé piocher là-dedans, prendre des extraits de Agrafa pour les utiliser dans Amazon. Et pour ce qui est des chansons de Dope Saint-Jude, qui étaient construites aussi à partir des textes des guerrières en anglais, eh ben, on a eu ce grand luxe de passer commande à Luvan, qui sait aussi écrire en anglais, qui nous a écrit deux textes super chouettes pour pouvoir réintégrer Dope Saint-Jude dans la pièce.
Nous, les chanteuses, on l'a vu en format vrai.
Et avec Dope Saint-Jude.
Mais enfin, du coup, on doit retourner pour voir la nouvelle version maintenant.
C'est ça. Que de péripéties, t'as dû encore te dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que le spectacle, il était déjà quand même avancé, il y avait quand même déjà...
Ah oui, c'était déjà sorti.
Mais ouais, voilà, tu te dis... c'est possibilité de remise à zéro totale, quoi.
Bah, en fait, c'est simple. Au départ, c'est la SACD qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a un refus, vous ne pourrez pas jouer les prochaines représentations. Et là, tu dis ou pas. Donc, tu cherches à d'abord voir étudier tes droits auprès de juristes et d'avocats. Et là, tu es calmé en deux secondes sur le fait que non, tu vas pas jouer à maintenir le spectacle dans sa forme initiale. Et tu réagis, tu rebondis. Alors, à coup de stress énorme, ça c'est clair. Mm-hmm. Surtout, encore une fois, deux semaines avant des dates cruciales.
Et là, il y a une équipe avec toi, c'est-à-dire que sur scène, il y a des gens. Il y a justement, on en parlait tout à l'heure de à travers la nudité, mais il y a une équipe dans ce spectacle, alors qu'on parlait tout à l'heure de d'autres spectacles qui étaient plus seuls en scène. Et il y a vraiment eu un travail de cohésion. C'est surtout cet aspect-là aussi, puisque des conséquences pour toi, c'est déjà quelque chose. Des conséquences pour l'équipe aussi, quoi.
Oui, c'est aussi ce que j'ai mis dans l'argumentation. le fait de couper des salaires. Mais bon, voilà. Et cette équipe, elle était là aussi pour me soutenir en mode... On ne sait pas où on va, Marinette, mais on te suit. On se retrouve à J-1 et on te suivra. Il y aura deux nouvelles musiques, il y aura d'autres textes. C'est cool. Non, c'est chouette d'avoir une équipe hyper soudée.
Mais c'est ton travail aussi qui a amené à ça. Et peut-être qu'on en reparlera. On va faire une petite pause en écoutant Dope Saint-Jude. Mais on en reparlera de ce travail d'équipe.
Yes.
Parce qu'il y a quand même une attention grande qui est portée à cette cohésion et à créer ces espaces tout en sécurité pour travailler. Et puis voilà. Dope Saint-Jude, extrait de son dernier EP à Yourself. Je dis peut-être des bêtises, non? Pas du tout.
Non.
You're gonna make it pour faire bien briller vos cœurs, voyons.
How bad do you want it? How bad do you want it? This bad out bad. This bad out bad. This bad out bad. This bad out bad. I believe in you and me. We about to get this money. I believe in you and me. We about to get this money. Manifest the bag, the swag. But you wait to humble, to brag. Manifest the bag, the swag. But you wait to humble, to brag.
What the fuck you gonna do, bitch? out bad. This bad out bad. This bad out bad. Yay, manifest, manifest that shit. Mana, mana, manifest that shit. Manifest, manifest that shit. Mana, mana, manifest that shit. Manifest, manifest that shit. Mana, mana, manifest that shit. Manifest, manifest that shit. Mana, mana, manifest that shit.
Top sound du voodoo.
Slit. Let's talk about slit. Parlons fente. L'espace d'une seconde, parlons du silence calcique. Comme il colle à tes doigts, parlons silex. Sculptons les flots engouffrants d'œufs flaccides, piégés dans l'ambre mielée. Parlons humide, enroulé à la chair musquée des limaces. Parlons moisi, parlons mycélium, tohu-bohu ininterrompu des ammonites et amibes. Perles collantes et fourreaux trempés des sphinx. Parlons de cette résurgence d'algues indomptées. Bosselés d'éponges et de larves, effleurons les tourments odorants des mollusques saturés de sel. Éraflons l'écume enflée des baleines soupirantes. Parlons ambiguïté du poisson, tété coriace des sirènes plurijambistes. Parlons de noyade et d'émergence, de chiasme et de fente, d'enfilade et de gorge, de momies charnues infusées de moisissures. Parlons de l'endroit où tout s'avale. Digital, trempé, butin au bois dormant, gargouillis d'étang, source stupéfiée. Mettons-y les lèvres par-dessous, l'en-dessous et le tout autour. Faisons que ça croisse, plancton et germe, grotte luisante d'entrailles engrossée de mousse, parlons libération. Aux muscles tressautants comme un banc de sardines, aux vrilles essoufflées de fourrure flagellante, parlons d'appartenir à la pulpe.
Waouh.
Merci Marinette. Tu peux nous dire de quoi cet extrait rappelé?
Alors ça, c'est la traduction française de Slit, fente, un texte poétique qui a été écrit par Luvan pour Amazon, qui est donc interprété par Dope Saint-Jude. C'est le premier track qu'on entend dans la pièce.
Super tout ça. Justement, on va reparler d'Amazon et voilà, de ce travail.
Du groupe. Parce que même si tu es la chef, tu as essayé de changer ça et de faire vraiment un travail collaboratif avec tes danseuses.
Alors, à propos du groupe, ouais. Alors, je vais quand même pas me dédouaner du fait que quand même...
tu restes là.
J'étais bien dans ma posture de chorégraphe.
Habillée, cachée.
Non, alors ça, non. Non, non. Ouais, non, non. Même le jour de l'audition, quand il fallait non pas se mettre à poil total, mais en sous-vêtements, j'ai fait la même.
C'est... Non. Et qualité.
Ouais, ouais. Non, ça, ok. Pareil, le premier jour où on s'est mis à poil, je me suis mis à poil aussi. Oh, une fois qu'elles étaient blasées, j'avais plus besoin. Non, là-dessus, évidemment, je suis hyper vigilante à ça. Après, je me dédouane pas sur le fait que c'est une vraie direction d'interprète. Pour autant, en effet, j'ai essayé de vraiment travailler à une, ce qu'on appelle la cohésion d'équipe dans le sport. C'est des chouettes termes aussi. Et ça, c'était hyper important, bon, déjà pour moi en général, mais aussi pour ce travail, pour constituer ce qu'on appelle un espace safe, un espace bienveillant. Et en fait, c'est vraiment un endroit de vigilance à remettre toujours sur le tapis. Parce que on pourrait croire que c'est la bienveillance, elle est de fait, elle est induite, c'est ok, donc on y va. Et en fait, très vite, on peut tomber dans des micro-travers qui sont toujours des arriérés culturels, de mise en concurrence, de paresse à accompagner l'autre. C'est-à-dire, c'est bon. Alors que, voilà, on a essayé d'être vraiment dans un degré de vigilance pour être toujours dans un accompagnement de l'autre, une acceptation de l'autre, pour être dans une vraie qualité relationnelle. Et alors, pour que cet espace safe soit pas uniquement quelque chose dans lequel t'es bien, mais quelque chose dans lequel t'es boosté. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que souvent, il y a un petit écueil sur la bienveillance. Peut-être parce qu'il y a trop de L dans bienveillance, je sais pas.
c'est trop gentil.
C'est trop gentil. Oh, so pretty. Voilà. Moi, j'ai pas arrêté de dire aux interprètes que la bienveillance et la qualité de la sororité étaient justement un appui pour un empuissancement et collectif et de chacune. Il y a un moment, si on se sent bien, si on se sent en sécurité, c'est pas pour s'endormir, c'est pour pouvoir aller plus loin ou plus haut dans un lâcher prise, un déploiement de sa personne, un déploiement de son énergie, etc. Et ça, c'est des choses qui étaient vraiment très concrètes à travers des pratiques dansées. Ou autre, c'est-à-dire que c'était à la fois dans le travail chorégraphique, mais aussi dans tout un tas d'exercices un peu rituels qu'on continue à faire avant les représentations, dont un qui s'appelle les femmes paysages. À deux, c'est comment tu honores le corps de l'autre, qui est nu, allongé, les yeux fermés, à travers... tout un tas de d'apposer des fruits ou des végétaux ou du contact sur son corps. Évidemment, comment tu fais pour que ce soit jamais intrusif? Et comment tu fais pour que... Quelle est ton intention ou ta relation corporelle à l'autre pour que ça soit vraiment honorer le corps de l'autre et pas profiter du corps de l'autre? Et ça, c'est des choses qui sont en fait très concrètes à percevoir. Et qui sont, je pense, instructives.
En tout cas, ça s'est senti dans la proximité qu'elles ont entre elles, hein, sur scène. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment sincère, ces gestes-là, et on sentait pas qu'il y avait, que c'était vraiment pour faire scène, justement, et que c'était, ça partait aussi d'un principe dont on se sent à l'aise de le faire. Et justement, c'est ce qui m'a plu, moi, dans ce spectacle et tous les... Enfin, là, vous l'entendez pas, mais...
Toutes les frappes corporelles.
Oui, parce que le corps est devenu un instrument aussi chez toi. Elles deviennent guerrières, bien sûr, mais le corps n'est pas nu juste pour ça. On parlait tout à l'heure de la nudité. Il est aussi nu parce qu'il devient un instrument de combat et un instrument de communication aussi, quoi. Et moi, c'est ça qui m'a plu, le côté percussif.
Un petit côté féministe avec la femme qui crache. Parce que normalement, une femme, c'est propre. Y a pas... Et là, du coup, de les voir cracher des fruits, j'ai trouvé ça vachement fort, en fait.
Enfin, ouais,
ça
elle transpire. Je veux dire, ça peut paraître basique, mais vraiment, elles transpirent, elles crachent, elles sont collantes.
Les fluides, les fluides sont
exactement
de toute manière.
On est bien d'accord.
Et justement, est-ce que tu vas continuer à aller dans ce sens-là à l'avenir, que ce soit du travail collectif? Est-ce que tu vas refaire collectif ou tu as envie de repartir en solo? Comment tu as des idées?
Bah, ça m'a plutôt donné goût au travail avec plein de gens. Merde. Voilà. Non, c'est chouette. Du coup, la prochaine pièce, ça s'appelle C'est comme ça que Don Quichotte décida de sauver le monde. C'est un clin d'œil au Don Quichotte de Cathy Acker. C'est juste un clin d'œil, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas, comme pour Amazon, de travailler vraiment avec un texte à l'appui. Mais c'est un clin d'œil sur cette démarche de se réapproprier les représentations des mythes et de peupler nos imaginaires avec des figures déclinées au féminin. Et donc, en fait, on va travailler sur la figure chevaleresque à travers une démultiplication de femmes. Il y aura 10 personnes.
Waouh!
10 meufs!
En armure!
5! Alors, on va voir, on n'a pas encore le costume. Elles ne seront pas à poil parce que espace public. Voilà, ça, c'est une autre strate de aussi. Ouais, c'est que amener ça dans l'espace public. En fait, ce projet va se décliner en deux formats différents. Un premier, dans des espaces non destinés au spectacle. Donc ça peut être vraiment dehors, dans l'espace public, dans un jardin, dans un parc, enfin voilà, mais aussi dans un squat. Par exemple, on va certainement jouer avec le festival Jerkoff. On a parlé d'habiter des immeubles désertés, ça serait super chouette. Donc par moments, ce sera très bucolique, d'autres moments moins. L'enjeu va être à chaque fois, à partir de modules d'écriture vraiment précis, de réinventer la pièce de manière performative en fonction de chaque endroit et de chaque contexte, évidemment, aussi du public qui va être amené à être là ou passer par là. Et en fait, particularisme, c'est que ça va être 5 danseuses interprètes et 5 activistes féministes. Et que, pas évident, mais ça va pas être, les danseuses vont faire un truc, les activistes vont faire autre chose, on va suivre le même processus de création. en essayant de garder une vraie exigence sur l'écriture chorégraphique et une vraie exigence sur ça raconte quoi, etc. Donc en fait, il va y avoir un travail, on parlait tout à l'heure du travail en collectif. Là, ça va être hyper important de travailler à ce que j'appelle un en commun. Un en commun de tas de pratiques, de réflexions qui vont être extrêmement nourries par les activistes, évidemment, qui seront présentes créer cette nouvelle communauté. Et après, si tout ça va se traduire par une écriture chorégraphique, c'est certainement trop tôt pour savoir exactement quelle forme ça va prendre, mais je suis assez persuadée que tout ce travail d'arrière-plan transpirera dans la danse, même si c'est, on va pas raconter politiquement la chose, mais que je suis persuadée que tout ce travail de fond transpire toujours d'une manière ou d'une autre, en fait, dans le résultat final.
En tout cas, en attendant, allez voir Amazon, si vous n'avez pas donné envie, franchement. Nous, on va trop voir la nouvelle version, donc allez-y, c'est très important.
Gwen, on a d'autres choses à faire. Allez, l'agenda. Tout à fait, des rendez-vous dès cette semaine. D'ailleurs.
Oui, le 23 avril, on vous propose un petit débat sur éducation et LGBTQI+. Donc ce sera le 23 avril à 14h au local d'Execo, 25 rue du Jard. Le 14 mai, alors il y a un truc super cool, on fait venir Juliette Drouard pour vous présenter un livre intéressant qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. Ça peut vous sauver la vie. Donc venez. Et si vous n'êtes pas, sur Reims, à Paris, il y a aussi un événement très important, l'Exit Trans Inter, qui est du coup la marche des personnes trans et intersexes qui se passe tous les ans. Alors avant c'était en novembre, maintenant ils ont décalé en mai, mais du coup c'est important d'y aller si vous pouvez être pas avec nous à Reims. Et l'autre moment chouette, c'est le 17 mai, donc la journée mondiale contre les LGBT-phobies. On fait venir l'auteur Laurier The Fox, qui fait de la BD et qui a sorti, une BD qui s'appelle Reconnaîtrance, avec plein de témoignages de personnes trans sur leur vécu, la magie de la transphobie, des trucs pas très cool. Mais du coup, il a mis ça en dessin, il a mis ça avec leurs mots et... Et alors moi j'ai baqué, mais j'ai toujours pas reçu. Normalement je devrais recevoir cette semaine la BD, donc j'ai hâte de la lire. Mais je pense que le travail est assez chouette et c'est super cool de pouvoir rencontrer l'auteur et voir pourquoi il a fait cette démarche, même si ça le touche lui personnellement. Et le dernier truc, le 21 mai, vous avez la Pride de Reims avec plusieurs assos LGBTQI+.
On va marcher, je crois.
On reviendra. Notre prochaine émission, c'est le 17 mai, donc c'est génial.
On en reparlera, les amis.
Mais on vous tease déjà le 21 mai. Vous gardez la date et on espère vous voir nombreux et nombreuses.
Oui, bien sûr. Et on va se quitter avec un groupe de meufs, un peu de punk.
Exactement.
Ouais.
Merci Marinette.
Marie-Belle, merci beaucoup Marinette pour tous ces échanges et pour nous avoir expliqué un petit peu plus comment se déroulait ton spectacle, même dans les coulisses. On va écouter Marie-Belle, un extrait de leur dernier album, Bellatrix Boadicea, beaucoup trop long comme nom d'album, désolé, j'aime pas ça. Et le titre Sacrificed, et on vous donne rendez-vous le mois prochain.
Bisous.